Nous allons poursuivre alors notre cheminement qui concerne le fait d'être avec le Christ. Et on peut envoyer le PowerPoint. Seigneur, que tu nous aides dans cet enseignement, que nous puissions l'avoir dans nos cœurs. Et que cet enseignement puisse produire du fruit dans nos cœurs. Voilà, rechercher Jésus à la suite de son ascension. Ça tombe bien puisque c'est le week-end de l'ascension. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 et 20, c'est... récurrent, hein, à chaque fois que je prêche depuis le début de l'année, c'est le même verset qui vient. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout, donc les disciples. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et puis, Théophile, vous connaissez Théophile ? Vous ne connaissez pas Théophile ? Théophile, c'est dans Actes, chapitre 1er, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, et donc c'est l'évangéliste Luc qui parle. Luc a fait un reportage sur Jésus. Et donc, voilà, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et puis un peu plus loin, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ascension. On parle de l'ascension parce que le terme ascension veut dire monter, c'est aussi simple que ça. Et savez-vous combien de jours séparent Pâques de l'ascension? 40, c'est bien. C'est important le chiffre 40 dans la Bible. Et pendant ces 40 jours, Jésus s'est manifesté à ses disciples. C'est Paul qui nous dit que Jésus a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 4 à 7. Je me suis posé la question, mais peut-être vous aussi. Comment que ça se fait que Jésus, étant ressuscité, se manifeste à autant de personnes? Il n'est pas impossible qu'il y en ait plus que ceux qui sont relatés par Paul. Comment se fait-il que Jésus ne soit pas allé voir Pilate, Hérode, les chefs religieux en disant « Je vous avais dit que je ressusciterai le troisième jour ». Moi, ça, pendant longtemps, je me suis dit, mais Jésus, tu pourrais faire comme ça aurait été... Waouh ! Ça aurait été, ouah, c'est ça, l'effet ouah, hein, on dit. Ouais. Je vous avais dit, vous n'avez pas voulu croire, ben regardez. Ben non. Jésus n'a pas fait. Je ne sais pas si j'ai une explication, mais dans mon fort intérieur, je ne dis pas que c'est biblique, dans mon fort intérieur, Jésus n'en a que faire de prouver aux hommes. Il n'est pas de ce monde, ni de ce royaume. Il laisse ceux qui... Il laisse ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui se sont opposés à lui, il les laisse faire parce que Jésus est roi d'un autre royaume que le royaume terrestre. Une question comme ça que je voudrais juste poser, mais est-ce que nous n'avons pas, nous, parfois, l'envie, la tentation, je dirais même, de prouver l'existence de Dieu ou le fait que Jésus soit ressuscité? Parfois, est-ce que nous ne voulons pas prouver aux autres, voire à nous-mêmes, que nous avons raison d'avoir la foi en Jésus-Christ? Ceci de manière très différente, y compris au travers de la pratique des dons spirituels, des guérisons, des paroles de connaissance, etc. Juste pour dire, mais vous voyez, vous savez, voilà, j'ai raison. Je fais juste une parenthèse, parce que j'y pense, mais je pense à quelqu'un qui, maintenant un bout de temps, me disait... Dans telle église, ils doivent avoir raison puisqu'il y a beaucoup de guérisons. Et moi de répondre, mais il ne faut pas tout mélanger, quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a des guérisons dans une église ou dans une autre que tout ce qui est dit est forcément vrai. C'est comme la parole prophétique. Les Écritures nous disent qu'il faut examiner les prophéties, prendre ce qui est bon. Ça veut dire que tout n'est peut-être pas forcément bon dans la parole prophétique qui est dite. Donc il faut exercer un discernement, oui. C'est bien, merci, vous suivez. Faisons attention à la manière dont nous vivons les choses. Votre pasteur que je suis peut vous dire des bêtises, et c'est alors à vous d'exercer votre discernement pour savoir si je dis des bêtises ou pas, quoi. Il ne faut pas juste se dire, Saint-Bernard, il est sympa, il est pasteur et on va croire tout ce qu'il dit. Amen, quelqu'un dit. Ah oui. Non, mais je crois que c'est important. On en rigole, mais la manipulation spirituelle existe dans les églises, et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas avaler les choses en disant « je prends, j'avale, il doit avoir raison, il a de l'expérience, etc. » Il ne s'agit pas de ça. Est-ce que ce qui est dit est en rapport avec la parole de Dieu? Voilà, c'est... Donc tout ça pour dire que je poserai quelques questions à la fin, mais est-ce que tu cherches à prouver aux autres ou à toi-même que tu as raison d'avoir de la foi en Jésus-Christ ? la pratique des guérisons de Jésus, sauf erreur de ma part, n'ont jamais été pour prouver que Jésus venait de Dieu. Mais à chaque fois que Jésus a guéri, ici un lépreux, là un aveugle, là la femme qui avait une perte de sang, etc., c'était toujours par compassion. Jamais pour prouver qu'il avait de la puissance. Et si nous commençons à prier pour la guérison des gens, pour avoir la renommée d'une église où on prie et qu'il y a des guérisons, alors on a tout faux, quoi. Si ce n'est pas la compassion et l'amour qui nous animent pour prier pour les gens, alors nous passons complètement à côté de l'exemple de Jésus. Là encore, il ne faut pas se tromper. Lorsque, dans Jean, au chapitre 11, verset 42, Jésus dit, juste avant la résurrection de Lazare, « Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé, et il dit « parler », hein, il n'a pas dit « j'ai produit des miracles », « j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé ». Ce que Jésus voulait, c'était d'enseigner la foule. Il a parlé pour que les gens puissent croire, mais le fait de faire des miracles n'était pas forcément pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Le but de Jésus, c'était de faire la volonté du Père et d'attirer à lui tous ceux qui ont un cœur ouvert pour croire en lui. Cela dit, Jésus atteste que pour eux, les disciples, et pour nous qui sommes là, il était préférable qu'ils s'en aillent. On aurait pu dire, ah, reste encore avec nous. Je vous le dis dans Jean 16, 7, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. Il est avantageux que je parte. C'est dans votre intérêt que je parte. Il est préférable pour vous. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider, ou le consolateur selon les traductions, ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Jésus devait partir. Il devait remonter au ciel. C'est pas l'idée aujourd'hui, mais je vous laisse voir et réfléchir et méditer à chaque fois que Jésus dit « je dois ». Je dois passer par la Samarie. Il devait passer par la Samarie. Il y avait quelquefois des obligations. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Même s'il y a une continuité de la présence du Seigneur, il y a une nouvelle ère à partir de l'ascension de Jésus. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'humanité et pour le royaume de Dieu. Avec le départ de Jésus vers le Père, il y a l'envoi de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint n'est pas extérieur à nous, pour accomplir des œuvres extérieures, mais l'Esprit Saint rentre dans notre intérieur, il rentre en nous, comme Jésus le dit à Nicodème, où il parle de la nouvelle naissance. Tout notre être est, doit, devrait, je ne sais pas comment le dire, c'est à chacun de choisir, tout notre être doit être impacté par l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies. Notre manière de vivre avec le Seigneur, nos relations sociales, notre caractère, nos émotions, notre témoignage, tout est impacté. J'ai un pull. C'est marqué Jesus inside. Jésus à l'intérieur. Et quand je me balade avec, je me rappelle à la prison, les gens disaient « Tiens, c'est marrant votre truc. » Alors je dis « J'espère que ça correspond, quoi. » Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre que Jésus est dans mon intérieur, il faut encore que je puisse le vivre. Daniel me racontait une anecdote il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une dame qui roulait dans son véhicule et elle avait mis un poisson derrière. Et avec, je crois, si je me souviens bien, si vous êtes chrétien comme moi, klaxonnez. Et voilà qu'il y a un frère qui était derrière qui klaxonne et elle qui commence à râler parce qu'il klaxonne, quoi. C'est rigolo, mais en même temps, je trouve que c'est assez significatif. Est-ce que Jésus est dans mon intérieur? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est Jésus qui ressort le plus? On a tous, et moi y compris, des efforts encore à faire sur la gestion de notre caractère, etc. Mais quand même... est-ce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de ta vie et est-ce que ça paraît, ça transparaît aux yeux des autres? Cette semaine, dans le groupe de maison à Durtal, voilà, c'est excellent, le groupe de maison à Durtal, ah, c'était bien. Nous partagions, entre autres, Colossiens, chapitre 1 et le verset 19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, ou dans une autre traduction, oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Dieu n'a pas donné à Jésus tout ce qu'il avait, mais il a donné à Jésus tout ce qu'il est. Ah, c'est vachement différent. Dieu le Père n'a pas donné à Jésus tout ce qu'il avait, il a donné à Jésus tout ce qu'il est. Et le Saint-Esprit, agissant dans notre cœur et dans notre vie, ne nous donne pas tout ce qu'il a, il nous donne tout ce qu'il est. Et lorsque nous recevons l'Esprit Saint et lorsque nous vivons avec Jésus dans notre intimité avec lui, dans notre intérieur, il nous donne tout ce qu'il est. Il y a un verset, je ne me rappelle plus trop lequel, mais je crois que c'est dans les Éphésiens. Recevez... le caractère de Jésus. En fait, il faut que nous soyons des... C'est même pas très juste ce que je dis là, mais il faut que nous soyons des photocopies de Jésus-Christ. C'est plus que ça. Mais voilà, je n'ai pas d'autres images qui me viennent. C'est révolutionnaire. C'est inédit jusque-là. Quand je dis jusque-là, c'est jusqu'à l'ascension. Parce que Jésus devait monter vers le Père afin que l'Esprit Saint nous soit donné. Jésus devait retourner vers le Père pour nous envoyer l'Esprit. C'est pourquoi, nous l'avons lu tout à l'heure, il est dit qu'il est avantageux, préférable pour vous que je parte. En fait, Jésus est monté au ciel, il s'est assis près de son Père, entre autres, dans le but de vivre plus fortement, plus intensément dans notre cœur et au travers de nous. Ça va ? Je redis, hein ? Jésus monte au ciel pour vivre plus fortement et plus intensément dans notre cœur et au travers de nous. Je ne saurais trop insister pour dire que Jésus ne nous donne pas ce qu'il a, il nous donne ce qu'il est. Le deuxième point que je veux souligner là, c'est que par sa remontée vers le Père, Jésus nous donne une position qui est inédite. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Notre traduction nous dit « Il nous a fait siéger ensemble. » Et la parole, la transcription parole vivante, je trouve c'est très fort. Elle nous dit « Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. » C'est comme si nous disions à Jésus « Fais-moi de la place sur le canapé, que je me mette à côté de toi sur le trône dans le ciel. » Quand on réfléchit, des fois on se dit, nous on est là, mais non, on n'est pas là. En esprit, nous sommes assis avec le Christ, dans les lieux célestes, sur son canapé. Et si nous le méditons, et si nous demandions au Seigneur de le vivre, j'allais dire de le vivre vraiment. Si cette parole pouvait nous donner effectivement une position, c'est pas si. Pour moi, c'est évident, c'est ça. C'est même pas au conditionnel, c'est déjà fait, c'est déjà là. C'est déjà pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, mais c'est à nous de nous asseoir à notre place, à côté du Christ. C'est pas lorsque on va mourir, c'est maintenant. Déjà maintenant. Et si vous attendez, ce soit pour le moment où tu décèdes, alors tu as loupé une grande partie de ce que Dieu veut faire en toi et au travers de toi, ici-bas, sur terre. Cherchez les choses d'en haut. Nous dit notre fil conducteur, le verset pour l'année. Enfin, troisième point, l'ascension de Jésus ouvre la voie d'une nouvelle ère dans le royaume de Dieu, celle de l'Église, parce que l'Église n'existait pas encore. Jésus monte au ciel. Dans le royaume de Dieu, l'Église, avec un grand E, il ne s'agit pas de dénomination là, l'épouse du Christ, à partir du moment où il part, l'épouse du Christ, l'Église, épouse du Christ, se prépare aux noces. Est-ce que tu te prépares aux noces? Ou est-ce que tu les attends? T'attends les noces en disant, ben, j'espère que j'y serai. Est-ce que tu es plutôt vierge sage ou vierge folle? Réponds pas trop vite. C'est le pasteur Peter Schmidt, Samuel, que voilà, on se connaît bien, qui disait lors d'une pastorale, mais je vous l'ai déjà dit une fois, ça sert à rien, nous, enfin ça sert pas, c'est pas que ça sert à rien, il disait, si dans l'église où nous sommes 2000-2500, si le Seigneur vient et que la moitié de l'église reste sur la chaise parce que les gens ne sont pas enlevés, ben ça veut dire qu'on aura loupé le but de l'église. Le but, ou un des buts, c'est que tu te prépares aux noces de l'agneau avec le reste de l'église. Que tu te prépares. Que tu fasses attention à la manière dont tu vis. C'est une de nos filles, hein. Elle a été bousculée par le Seigneur parce qu'un jour elle est rentrée et puis elle voyait personne, elle a été au garage, etc. Il y avait la voiture, enfin il n'y avait personne et elle a dit, mince, ils ont été enlevés, pas moi. Ça l'a secouée. Et elle s'est donnée au Seigneur à travers de ça. Comment est-ce que tu te prépares? Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? Au travers de l'action de l'Esprit-Saint dans nos cœurs et dans nos vies à l'ascension, ben, du fait de l'ascension, l'Église, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes, selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous sommes des coopérateurs de Dieu. Et les Strong, c'est-à-dire les mots qui servent à choisir un mot plutôt qu'un autre dans la traduction, nous dit que ce terme ouvrier, collaborateur, coopérateur, c'est aussi compagnon d'œuvre. Ouvrier avec, travailler avec, contribuer, être une aide. Nous sommes, j'espère, chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau, j'aime pas le terme, quelle que soit notre maturité spirituelle, j'espère que chacun d'entre nous, nous sommes des compagnons, des compagnonnes de Dieu, ouvriers, ouvrières avec lui. Chacun. Pas juste le pasteur qui gesticule sur l'estrade. Comment est-ce que tu es compagnon d'œuvre avec Dieu et avec le Saint-Esprit? Comment l'as-tu été cette semaine passée? Comment vas-tu l'être la semaine prochaine? Là, le Seigneur ne s'adresse pas à nous en tant qu'Église, encore que, mais il nous interpelle chacun personnellement. Avant de prier, je voudrais te poser, nous poser, me poser quelques questions. Alors si tu as un téléphone, tu prends en photo Et puis tu médites cette semaine qui vient sur les diverses questions, en attendant que ce soit sur le site. Alors, il y en a 9, donc il y a de quoi faire. Es-tu conscient que Jésus devait retourner vers le Père afin qu'aujourd'hui tu sois rempli, toi, du Saint-Esprit? Sur quel socle se basent tes prières pour les autres? Est-ce vraiment la même compassion que celle de Jésus? T'arrive-t-il de vouloir exercer des dons spirituels afin de prouver aux autres ou à toi-même l'existence de Jésus? Jésus est-il à l'intérieur de toi? Si oui, comment le manifestes-tu au travers, autour de toi? Es-tu conscient que Jésus a déposé en toi tout ce qu'il est? As-tu, laisses-tu, permets-tu à l'Esprit de toucher tous les coins et les recoins de ta vie? Est-ce que par ton attitude, tu lui dis « Ah non, ça, je ne te permets pas, Seigneur, d'y toucher. » Question de blessure, de pardon, d'addiction, de caractère. Et j'ai mis 3 petits points parce que c'est vraiment pas limitatif. Es-tu assis avec Jésus dans les lieux célestes, sur son canapé, sur son trône? Comment te prépares-tu aux noces avec Jésus? Es-tu plutôt vierge folle ou vierge sage? Es-tu collaborateur avec Dieu, partenaire avec lui, compagnon d'œuvre? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Je suis conscient que ça fait beaucoup de questions, mais en même temps, j'allais dire, si nos enseignements du dimanche ne servent qu'à dire c'était un beau message et on part et on s'en rappelle plus, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de prêcher si il n'y a pas quelque chose qui se passe. Alors on prendra peut-être pas tout. Il y a peut-être une chose ou une autre qui va nous toucher plus particulièrement aujourd'hui, les uns et les autres, parce que c'est souvent comme ça dans les messages, c'est pas grave, on prend, mais il faut que les enseignements puissent servir à quelque chose. Pas forcément à nous gaver comme des oies, au point de prendre de l'embonpoint spirituel pour ne rien en faire. Jésus ne cherche pas à avoir des disciples qui soient gras. Il cherche des disciples qui soient efficaces, qui l'aiment, qui vivent avec lui et qui le représentent dans la société dans laquelle nous sommes. Si nous ne le faisons pas, nous loupons. Et dans ce cas-là, vaut mieux faire du sport le dimanche matin que de venir au culte. C'est un peu hard, mais vous me connaissez. Pas très grave. Dans ma bouche, il n'y a aucune condamnation pour qui que ce soit et je ne suis pas en train de prêcher à quelqu'un. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis en face. Je n'ai pas besoin de prêcher pour cela. Donc, je suppose que quand j'ai demandé au Seigneur vendredi soir ou samedi matin, « Inspire-moi, Seigneur, le message parce que je ne sais pas quoi dire », eh bien, j'ai l'impression que le Seigneur veut nous parler au travers de cet enseignement. Et donc, pour être concret, si il y a une ou l'autre des questions qui te touchent, qui t'interpellent plus particulièrement, qui te remet en question éventuellement, alors je vais demander, si tu es dans ce cas-là, tu te lèves et puis on va prier. On va demander à ce que l'Esprit Saint vienne faire son œuvre dans nos cœurs, à la condition, quand même, à la condition que, la question 6, à la condition que tu dises pas, « Ah ça, Seigneur, je ne te permets pas d'y toucher. » Si tu te lèves, ça veut dire que tu acceptes que Jésus te touche et que l'Esprit Saint te touche dans toutes les parties de ton être. Alors, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui met cette condition-là ou si c'est moi, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, si tu te lèves, alors ça veut dire aussi que tu permets à l'Esprit Saint d'agir dans ton cœur, dans ta vie, comme il le veut, lui, et non pas comme tu le veux, toi. Ça vous va? Voilà, ben, si tu te sens concerné, tu te lèves à ta place et puis on va prier. Seigneur, tu souhaites que l'on soit décidé dans nos cœurs. Je pense à cette parole de 1 Chronique chapitre 12 qui nous dit que des hommes sont venus vers le roi David en lui disant, enfin en disant qu'ils sont des hommes résolus dans leur cœur pour proclamer David comme roi et pour lui dire nous sommes à toi et nous sommes avec toi. Et, Seigneur, c'est ce que nous voulons dire ce matin aussi. D'un cœur résolu, Seigneur, nous voulons être à toi et avec toi. Nous souhaitons que notre vie puisse être une vie qui t'honore. Nous voulons avoir conscience que dans nos cœurs, tu n'as pas donné ce que tu avais, tu as donné qui tu es. Pour que ta présence, ta personnalité, ton caractère soient imprimés dans nos cœurs et se voient et se ressentent et se vivent autour de nous. Esprit Saint, viens et agis dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs qui sont debout. Agis et manifeste-toi que, Seigneur, nous soyons changés, transformés par l'Esprit Saint dans nos vies, entre autres au travers de l'intimité que nous pouvons avoir avec toi. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, vivre une vie chrétienne médiocre. Une vie où nous sommes des vierges folles qui ayons l'apparence d'être bien et puis finalement quand tu viens ben on reste là quoi. Seigneur, fais de nous des vierges sages attendant, préparant ta venue, préparant les noces, collaborant en partenariat avec toi. Manifeste-toi, Seigneur. Par l'Esprit Saint, tu es monté pour que l'Esprit puisse descendre dans nos cœurs et dans nos vies, alors qu'il en soit ainsi. Viens, descends dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. C'est notre prière. Interviens. Par ta grâce. Nous savons que nous ne méritons rien et nous ne te demandons pas un mérite quelconque. Mais c'est avec humilité que nous nous tournons vers toi en te disant, agis, manifeste-toi, glorifie-toi dans nos cœurs. Jésus, nous le demandons, que le Saint-Esprit descende en nous et qu'il fasse son travail dans nos cœurs. Un travail profond. Nous ne voulons pas d'une vie chrétienne superficielle. Nous voulons quelque chose de vrai, d'authentique, de profond avec toi. Et nous te prions pour que dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, tu changes et tu transformes, tu accomplisses ton œuvre en nous et donne-nous aussi la joie de voir l'Esprit Saint se manifester au travers de nous pour accorder tes bénédictions. Nous t'en bénissons et nous t'en remercions. Amen.